Voilà, bonjour à tous. Je vous propose de continuer la suite de mon message de dimanche passé sur le jeûne et la prière. J'espère que vous avez bien déjeuné ce matin. Voilà, je rappelle juste, je pensais bien de le rappeler chaque fois ce qu'est le jeûne. Souvent, on pense que le jeûne, c'est juste s'abstenir d'écran ou de chocolat, ce qui est très bien déjà, mais c'est plus que ça. J'arrive pas à avancer. Voilà, super. C'est une pratique spirituelle qui consiste à s'abstenir volontairement de nourriture pendant un certain temps dans le but de se rapprocher de Dieu. Et il accompagne la prière et la méditation de la parole. C'est le jeûne et la prière, ça va ensemble. On peut prier sans jeûner, mais par contre, on ne peut pas jeûner sans prier, vous êtes d'accord ? Ça va ensemble. Amen. Dimanche passé, j'ai parlé de quelques objections qu'il y avait par rapport à donc le jeûne, souvent. Ce qui se passe, j'arrive pas à avancer. Voilà. Ah, magnifique. Je vais réessayer, voir si ça avance. Je vais en arrière, en avant. Non, ça marche pas. D'accord. C'est toi qui vas faire ? Ok, super. Je te fais signe, comme ça on change. Super. Alors, la première objection qu'on a souvent par rapport aux jeûne, j'ai parlé la dernière fois, c'était que souvent on pense que c'est exceptionnel dans notre vie. Et c'est bien pour des grandes décisions, pour se marier, changer de travail. C'est très très bien de jeûner et prier. Mais c'est plus que juste pour des moments exceptionnels. On peut mettre la suivante. Une deuxième objection, c'est que le jeûne est lié à une catégorie de population. On avait vu ça, mais ce n'est pas le cas. Tout le monde est appelé à jeûner, toute l'Église, pas juste certains ministères, certaines personnes ou ceux qui ont reçu pour jeûner. Il y a des gens qui, vraiment, ils ont reçu dans l'intercession le jeûne, donc c'est pour eux. Non, c'est pour toute l'Église. Suivant, une objection qu'on a souvent, c'est que Dieu n'est pas légaliste. Ah, il ne veut pas nous voir souffrir, il nous aime tellement. C'est un Dieu de grâce. Qu'est-ce qu'il veut nous faire souffrir ? Le jeûne, c'est de la maltraitance physique. Pourquoi Dieu ferait ça ? S'il est amour. Et une dernière objection, c'est le manque de connaissances. Souvent, on ne sait pas comment jeûner, on ne sait pas comment faire. C'est pour ça que je nous encourage, dans cette période où on lance le jeûne et prière en Église, à vous mettre avec des personnes qui auraient à cœur de prier avec vous. Et puis, on apprend ensemble. C'est important, en tant qu'Église, qu'on puisse apprendre ensemble. Même moi, en tant que pasteur, j'ai dû apprendre à jeûner. Voilà. Je l'ai fait avec quelqu'un, ça m'a appris, j'ai grandi. C'est tellement important. On est toujours en train d'apprendre et on a tellement besoin les uns des autres. Donc, voilà, ce matin, j'aimerais continuer en parlant peut-être de, pas seulement les objections par rapport au jeûne, mais j'aimerais parler avec vous ce qu'est le vrai jeûne maintenant. Parce qu'on a vu tout ce que, voilà, les idées qu'on a préconçues sur le jeûne. Et là, en effet, on aimerait regarder ensemble, c'est quoi le véritable jeûne ? Qu'est-ce qu'est le jeûne auquel Dieu prend plaisir ? Et j'ai fait un peu de recherche dans les fois où le mot jeûne apparaît dans le Nouveau Testament. Et je ne sais pas si vous avez fait cet exercice, mais ça m'a étonné. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup d'occurrences de moments où le mot jeûne revient. Il y en a quelques-unes, il y en a peut-être 13 mentions, dont certaines répétitions dans les évangiles. Et quand on y pense, je me dis, mais ce n'est pas tant que ça, finalement. Alors, je vous vois venir, il y en a qui disent, bah, tu vois, Christian, ce n'est pas si important que ça de jeûner. Je vous sens soulagé d'un coup, là, et d'un seul. Mais j'ai un peu réfléchi un peu plus que ça. Mais en fait, pourquoi ça apparaît peu dans le Nouveau Testament ? Parce que c'est évident. Vous savez, quand quelque chose est évident, on ne le dit pas. Parce que c'était pratiqué à l'époque de Jésus. Et si on regarde l'Ancien Testament, en fait, il y a beaucoup de références au jeûne. C'était déjà une pratique déjà de l'Ancien Testament. Alors peut-être qu'on n'aime pas trop lire l'Ancien Testament, je vous l'accorde. Je sais pas si, en tout cas, si vous avez envie de vous endormir, vous lisez les généalogies des chroniques le soir et vous pouvez vous endormir. Mais non, c'est vrai que des fois, on peut avoir l'impression que l'Ancien Testament est pas intéressant. Mais c'est la base, si on veut comprendre le jeûne, il y a tellement de pépites dans l'Ancien Testament. Et déjà, du temps de Jésus, on voit que Jésus, et quand il dit, il parle du jeûne, il dit, lorsque vous jeûnez, on a vu ça en Matthieu 6, lorsque vous jeûnez, il n'est pas en train de dire quand vous jeûnerez ou quand ça arrive. C'est comme dans la pratique. Il s'adresse dans le serment sur la montagne. Il dit, lorsque vous jeûnez, ne faites pas comme les pharisiens. Donc, c'était une pratique courante à l'époque de jeûner. On voit que, puisque Jésus va commencer à donner des instructions sur la bonne façon de jeûner. Justement, pas comment les pharisiens le font pour être vus, pour mettre leur chair en avant plutôt, mais la bonne manière de jeûner. Donc on voit que le Nouveau Testament n'insiste pas, puisque ça fait partie vraiment de l'équipement du peuple de Dieu, le jeûne. Et on voit que dans l'Ancien Testament, dans la loi de Moïse, souvent la pratique du jeûne est explicitée. Il y a des jours de jeûne qui sont agendés systématiquement dans le calendrier. Et on voit que dans le Nouveau Testament, bien sûr que Jésus l'a pratiqué, les disciples l'ont pratiqué. Dans les Actes des Apôtres, l'Église primitive a pratiqué le jeûne. L'apôtre Paul parle de jeûne multiplié. Tant il avait des besoins et des combats incessants qui le poussaient à chercher la face de Dieu avec zèle. Amen. Et c'est ça qu'on veut faire. Alors, qu'en est-il de ce jeûne, justement, dans l'Ancien Testament? Comment était-il pratiqué? Et comment entrer dans ce véritable jeûne que j'aimerais voir avec vous? Alors, quelques pensées ce matin que j'aimerais vous laisser pour reprendre comme réflexion quand nous aurons nos rencontres de jeûne le mardi. Et pour ceux qui ne peuvent pas le faire le mardi, faites le lundi, faites le mercredi, faites un autre jour de la semaine, mais prenez un temps avec le Seigneur. Alors, tout d'abord, le jeûne, c'est un peu une vérité fondamentale, mais je pense qu'il ne faut pas l'oublier, c'est d'abord pour le Seigneur qu'on le fait. Parce que des fois, on le fait un petit peu pour nous, pour obtenir des choses. Très souvent, on pense que le jeûne, c'est un moyen pour tordre le bras de Dieu. Voilà, pour obtenir quelque chose qu'il fasse, quelque chose que nous lui commandions. Bien sûr, on ne va jamais le dire comme ça. On est des bons chrétiens, on est gentils, on va dire ça, non, on fait ça. Voilà. Mais quelque part, il y a cette idée par moment du jeûne, c'est pour forcer la main de Dieu, faire pression sur Dieu. Et je pense que c'est vraiment une très mauvaise motivation de jeûne. Et je pense que ce n'est pas du tout le jeûne, vous savez, comme on fait les grèves de la faim, vous savez. C'est on jeûne pour faire pression sur le gouvernement ou sur l'État, pour obtenir quelque chose. Hein. C'est la grève de la faim. Alors, la grève de la faim n'a rien à voir avec le jeûne biblique. C'est pour le Seigneur que nous le faisons d'abord, pas pour obtenir ses bénédictions, même si on sait qu'on peut obtenir des bénédictions par le jeûne. Mais c'est d'abord pour passer du temps avec lui. C'est, comme le dit l'Écriture, trouver son cœur, passer vraiment dans un moment de précieux avec lui. Et même au-delà de nos demandes, en fait, dans le jeûne, au-delà de ce qu'on veut obtenir, en fait, Dieu veut d'abord transformer même notre cœur à nous aussi. On jeûne pour Dieu, et puis quand notre cœur rencontre le cœur de Dieu, eh ben, il se passe quelque chose dans notre cœur d'abord, avant même qu'on ouvre la bouche, avant même qu'on ait des demandes pour nos situations personnelles, nos enfants, les gens qui nous entourent, tout ce que nous avons comme défi dans notre vie. Le jeûne est d'abord un temps de mise à part pour être avec le Seigneur. Le jeûne, c'est un appel. Le jeûne, c'est une soif de plus grande proximité avec notre Père Céleste. Amen. C'est ça la motivation. Si vous n'avez pas cette motivation, ne jeûnez pas. Vous gagnerez du temps dans votre vie. Et Jérémie 29, 13 va dire « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur ». Ça, c'est la condition fondamentale du jeûne. Chercher le Seigneur de tout notre cœur, sans arrière-pensée, sans motivation qui serait fausse. Et Jésus avait horreur un type de jeûne, c'était le jeûne des pharisiens. Parce que c'était un jeûne pour être vu. C'était un jeûne dont les motivations étaient mauvaises. Et pour passer pour des gens super spirituels. Pour des gens géniaux, mieux que les autres, alors que ça sent l'orgueil à plein cœur. On sent que le cœur est vraiment plein d'orgueil. Et on sait comment le cœur des pharisiens avait besoin d'être transformé, puisqu'il y avait l'amour de l'argent, pas l'amour de Dieu, pas rechercher vraiment Dieu pour qui il était. Ils étaient pleins d'envie, pleins d'adultère. Et comment Dieu peut-il agréer un jeûne si notre cœur est rempli de ces motivations-là? Et on voit que dans différents passages dans l'Écriture, il y a « Cherchez l'Éternel et vous vivrez ». Amos, « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face, je cherche ta face, ô Éternel. Ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. Voilà le cœur et la première des motivations. Voilà le vrai jeûne qui fait plaisir à l'Éternel, c'est qu'on le cherche. Ça, c'est le premier point sur le vrai jeûne. J'aimerais avoir un deuxième avec vous. Le jeûne, c'est aussi un temps d'humiliation. Alors, humiliation, c'est un mot qui paraît un peu fort comme ça. Ce n'est pas humilier quelqu'un, hein, bien sûr. C'est dans le sens de l'humilité. Pour engager un jeûne, pour commencer un jeûne, nous avons besoin de nous humilier. C'est un besoin fondamental que nous avons à vivre, qui va à l'encontre de ce que nous trouvons dans l'être humain, dans le cœur de l'homme, qui est ce besoin de prestance, ce besoin de puissance. On le voit dans la société, on le voit dans les grandes ce monde, ce besoin de puissance. Par la force, on va résoudre les choses en écrasant. Et ce besoin d'être aussi quelque chose, ce besoin de fierté, ce besoin d'orgueil. Et ce besoin-là, il est dans le cœur de l'homme depuis le départ. Et il est la base de tout. Il est même à la base du péché de l'ange qui était un archange, qui était Satan, qui était un ange de lumière. C'est ça qui l'a fait chuter. C'est l'orgueil. Et il est à la base du premier des péchés avec Adam et Ève. C'est l'orgueil. Notre cœur a une tendance, malheureusement, à être orgueilleux. Alors bien sûr que l'orgueil, c'est pas « je suis le meilleur » toujours, hein. Il prend des différentes formes. Il prend des formes très spirituelles. Et des fois, on est étonné, si on va un peu au fond de nos motivations, de dire, mais en fait, ce qui paraît bien aux yeux des autres, c'est juste de l'orgueil. C'est juste de l'orgueil. Et c'est comme quelqu'un dirait, c'est comme le COD dans l'oxygène. Il y en a partout, quoi. On le respire tout le temps, à toutes les sauces. Et la Bible dit, mais allez dans le sens contraire, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Ça c'est dans 1 Pierre, humiliez-vous, voilà l'appel de l'Écriture. Dieu fait grâce aux humbles, mais il faut bien sûr que cette humiliation soit volontaire. On en revient au premier point. Il faut que ce soit volontaire. Ce n'est pas quelque chose qui doit être contraint, malheureusement. Et dans la loi de Moïse, on voit, et dans les livres des prophètes, nous trouvons différents temps d'humiliation volontaire, que ce soit individuel ou le peuple entier qui faisait ça. On voit dans le livre du Lévitique, par exemple, au chapitre 23 et au verset 26, on trouve le grand jour des expiations, qu'on appelle le Yom Kippour. D'ailleurs, on vient de dans le calendrier juif, ça vient d'être fait là, je crois, cette semaine passée. C'était le Yom Kippour, justement. Alors, c'est quoi le Yom Kippour? C'est le jour qu'on appelle aussi le jour du grand pardon. Et qu'est-ce qu'il est dit de ce jour? C'est un jour, une sainte convocation où vous humilierez vos âmes. Voilà, tout est là. C'est ce moment où on humilie nos âmes. David va dire « J'humiliais mon âme par le jeûne ». Ça, c'est dans le psaume 35 et le verset 13. « J'humiliais mon âme par le jeûne ». Et d'autres textes nous parlent de cette humiliation volontaire parce que notre cœur a justement cette tendance de faire l'opposé, en fait. À ne pas être humble par nature, mais être orgueilleux par nature. Donc nous allons aller volontairement dans le sens contraire pour mettre à mal cet orgueil, cette tendance. Vous savez, dans l'Église, mais dans le peuple de Dieu, il y a tellement de suffisance, tellement de propre justice, tellement de « je sais ». Oui, je sais, mais je connais ce passage. Oui, je sais ce que tu vas me dire, je sais. Et ça guette tous les croyants. Toutes les croyantes, qui que nous soyons. Et l'humiliation, c'est juste dire, je veux dépendre de toi, Seigneur. C'est juste ça. Je veux dépendre de toi et de toi seul. C'est dire au Seigneur, je ne suis pas un être indépendant, comme ça, qui me suffit à moi-même. Je me rends dépendant à toi. Je reconnais ta seigneurie. Je reconnais ton autorité, ta grandeur, et que malgré toute mon expérience, tout ce que j'ai vécu, je suis qu'une poussière devant toi. devant ta grandeur, malgré la grandeur de mon ministère, je ne suis qu'une poussière devant toi. Malgré tout ce que je sais, je ne suis qu'une. C'est même pas un milliardième de ce que tu sais, mais c'est infini. Dieu est infini. Vous réalisez quel Dieu on sert. Et parfois, comment on lui parle à ce Dieu ? On ne lui parle pas comme on devrait lui parler au grand Dieu de l'univers. Et c'est tellement important de travailler nos cœurs aussi dans cette ligne-là aussi. Un autre point que j'aimerais voir avec vous, c'est le jeûne comme un temps de purification. Si j'arrive bien sûr à revoir mes notes. Attendez. Ah bah ça, ça ne m'a jamais fait alors. Sans les notes, ça va être intéressant. Attendez une seconde. Comme ça, la maman peut s'occuper de son bébé tranquillement. Vous pouvez aller aux toilettes. J'ai jamais eu ça de ma vie. Bon, alors on va y aller comme ça. Amen. Ouais, essaye. Non, c'est bon. Je vais prendre mes... Alors, un temps de purification. Je retrouve mes passages au moins. Voilà. Vous savez que dans le jeûne, très souvent, le jeûne physique, on a remarqué que quand on jeûne physiquement, c'est comme si le corps se débarrasse des toxines. Vous savez, on le sait même dans la société, le jeûne thérapeutique, on dit ça. Quand vous vous abstenez de nourriture, et pendant un moment prolongé, on voit que le corps se débarrasse de toxines et de choses qui s'attachent à nous-mêmes, à notre peau et à notre corps, en fait. Et voilà que le jeûne, c'est quelque chose qui est régénérant pour l'organisme. Et vous pouvez faire un parallèle, finalement, avec l'âme et nos corps, en fait, où finalement, notre âme a tendance aussi à se remplir, malheureusement, de différentes toxines dans la vie de tous les jours. Vous savez qu'on est confronté tous les jours, pas seulement à la pollution. Vous savez, on disait manger pas 5 fruits et légumes par jour, parce que dernièrement, on a entendu que même dans les légumes et les fruits, il y avait différentes toxines qui étaient libérées par les pneus et tout ça. Donc, on rigole avec ça maintenant. Ne mangez pas 5 fruits et légumes par jour. Mais il n'y a pas que des toxines dans les aliments ou dans tout ce qui nous entoure, mais il y a la toxine dans tout ce que, des fois, on subit, que ce soit au travail, dans nos relations, et de l'œuvre de l'ennemi qui fait dans notre vie. Et ces toxines, c'est un petit peu comme de la poussière qui vient s'attacher à nos vies. Et cette poussière-là, elle nous colle à la peau. Et en fait, le jeûne, c'est un moment de purification. C'est un moment où on vient désencombrer, on pourrait donner cette image, désencombrer tout ce qui vient, tout ce qui a été encombré dans nos vies. Et donc, notre cœur est vraiment dans ce processus pendant le jeûne où ce n'est pas des activités qui sont arrivées dans nos vies, mais c'est des situations, des choses qui sont venues se mettre dans notre âme comme une poussière. Et le jeûne, c'est enlever cette couche de poussière dans nos vies. Le jeûne, c'est cette purification, comme le dirait la Bible dans le livre des Hébreux, dans le Nouveau Testament. Il est dit au chapitre 12 et au verset 1, « Rejetons donc tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. » Voilà ce péché et ce fardeau qui vient si facilement dans nos vies nous envelopper. Et je ne sais pas pour vous, mais dans aucune maison, quand il y a un nuage de poussière qui arrive, on va ouvrir les fenêtres et accueillir avec joie cette poussière qui arrive. Vous êtes d'accord? Pour ceux qui font le ménage. Ouais, c'est vraiment pas quelque chose... Ben, c'est normal. On va bien sûr fermer les fenêtres. Mais vous savez, la poussière, qu'on le veuille ou pas, elle s'invite. Elle s'invite dans nos maisons. Elle s'invite dans nos relations. Elle s'invite dans nos situations, qu'on le veuille ou pas. Et notre âme... naturellement se couvre de toutes sortes de poussières et ce nettoyage est nécessaire. La manière, dans ce jeûne régulier que nous sommes appelés à vivre, ce nettoyage est nécessaire. Et j'aimerais rajouter une pensée, c'est que ce nettoyage est toujours lié à la repentance. Ce nettoyage est toujours lié à la repentance. Alors, on n'utilise pas un aspirateur ou de la Javel, on utilise le sang de Jésus. Amen. On utilise cette puissant sang de Jésus qui va venir nous montrer et nous allons essayer d'enlever ces taches. Et quand on regarde l'histoire de l'Église, et surtout quand on regarde l'Ancien Testament, puisque c'est vers l'Ancien Testament que je me tourne par rapport aux jeûnes, on voit qu'il y a eu différents moments où le peuple d'Israël a opéré ce nettoyage. Il y a eu différents aussi mouvements de repentance, et dans les différents moments de l'histoire d'Israël, je pense à différents rois, comme Josias, Josaphat, Ézéchias, ces différents rois qui ont vécu des temps de renouveau, de réveil. Et dans tous ces moments-là, dans ces moments de réveil, il y a toujours eu des temps de jeûne, des temps de repentance, de jeûne et de repentance. Et par exemple, j'ai une référence dans 2 Corinthiens, 2 Chroniques, au chapitre 29. Et la première chose que va entreprendre Ézéchias, pour ce renouveau spirituel, c'est qu'il va désencombrer le temple. Il va désencombrer le temple. Il va aller, c'est dit dans le texte qu'ils vont nettoyer le temple et le texte précise que les sacrificateurs vont entrer dans l'intérieur du temple. Ils vont entrer dans les pièces, ils vont sortir les saletés, nettoyer tout cela parce qu'il y a eu de la négligence, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites pendant des années dont on ne s'est pas occupé ou qu'on a laissé finalement dans cette situation. Merci beaucoup Salomé. Ça va? Vous êtes toujours avec moi? Ah super! Vous n'avez jamais quitté, c'est bien. Moi, je suis toujours avec vous aussi. C'est bien. Voilà. Donc, merci beaucoup. Donc, ce temps de purification, on est là, donc avec vraiment ces moments où, finalement, on le voit dans l'histoire d'Israël. Et... une image souvent que j'utilise aussi, enfin qu'on peut utiliser, c'est que le jeûne, c'est un petit peu comme un moment où il y a le projecteur du Saint-Esprit qui vient éclairer nos vies. Vous savez, quand on est dans une pièce et qu'il y a une lumière très forte, on voit que les choses ressortent, vous êtes d'accord? On voit mieux peut-être les saletés, on voit mieux les choses apparaître. Et puis aussi, quand on commence à prendre du temps aussi pour nettoyer un peu dans les endroits qu'on n'a jamais nettoyés, quand vous nettoyez chez vous. Je me souviens une fois, je nettoyais mon four et j'ai tiré une pièce et je me suis dit, waouh, c'est tellement sale. Je ne voyais pas, mon four avait l'air très très beau comme ça. Mais je me suis dit, waouh, si on commence un peu à aller chercher des choses, et on voit que les choses apparaissent. Et je trouve que parfois, on a besoin vraiment de la lumière du Saint-Esprit qui vienne éclairer nos vies pour mettre à la lumière. Et vous savez, quand on jeûne, on est dans cette disposition d'ouverture au Seigneur. Vraiment, on ouvre notre cœur, on ouvre notre intérieur, on est là devant lui, on a arrêté peut-être une activité, on a arrêté de faire ceci, on est, et c'est mieux d'être dans un moment un peu intime, calme, hein, peut-être pas dans le brouhaha, mais c'est un moment où vraiment où on laisse le Seigneur clairement éclairer nos vies et montrer et désencombrer notre vie. Des choses qui ne sont pas à leur place, des négligences, il y a tellement de choses, peut-être même qu'on n'a pas conscience, des duretés, des choses qui sont là, de l'égoïsme, de la jalousie qui est là, tapis quelque part dans une pièce, qui est liée peut-être à un passé, à quelque chose qu'on a vécu, un manque de grâce, peut-être même de la superficialité. Peut-être Dieu peut nous révéler notre superficialité, un manque d'amour, peut-être même des rébellions qui sont cachées en nous, au fond de la pièce la plus profonde, au fond à gauche, à droite, et on ne s'en rend même pas compte. Et voilà que le Seigneur met son projecteur. Alors toutes ces choses sont enfouies dans la cave de notre âme et doivent être mises en lumière et nettoyées. C'est un temps de purification. Joël 2, verset 12 va dire « Il est encore temps maintenant de revenir à moi, affirme le Seigneur. Faites-le de tout votre cœur. Jeûnez, pleurez, et suppliez-moi. Il ne suffit pas de déchirer vos vêtements, déchirez votre cœur, car le Seigneur est bienveillant et compatissant, patient et d'une immense bonté, toujours prêt à renoncer à ses menaces. » C'est un appel du Seigneur, les jeunes, mes amis. Vraiment, le Seigneur, les jeunes aussi, hein. Les jeunes, jeunes, mais tout le monde, c'est un appel du Seigneur, me dire, mais venez à moi, vous ne vous rendez pas compte. La grâce de Dieu est là, mais ne changez, ne restez pas comme ça. Vous ne vous rendez pas compte ce qui est au fond de votre cœur. Vous ne pouvez pas continuer comme ça en tant que chrétien. Ce n'est pas parce que vous allez à l'église que vous louez le Seigneur. Mais Dieu dit non, il y a ça que je veux nettoyer. Venez vers moi, faites-le, pleurez, suppliez-moi. Un temps de nettoyage et de purification. Et dernière pensée, le jeûne est un temps pour vaincre notre chair. Amen. Je garde le meilleur pour la fin, n'est-ce pas? Plus on avance, plus le combat est douloureux, vous avez remarqué. Ça, c'est une définition du vrai jeûne. Nous avons besoin d'un temps pour vaincre les désirs et les tendances de notre chair. Le texte d'Ésaïe 58 est un texte fondamental si vous voulez comprendre ce combat-là sur la chair. Et je vous inviterai à le lire quand vous êtes en temps de jeûne. Mais on ne va pas pouvoir les lire. Je vais lire juste un passage dans Ésaïe 58. « Voici le jeûne que je préconise. » Et en hébreu, c'est « auquel je prends plaisir. » Voilà le jeûne auquel Dieu prend plaisir. « Détache tes chaînes de la méchanceté. » Dénoue les liens du joug. Renvoie libre ceux qu'on écrase et que l'on rompe toute espèce de joug. Les jougs, c'est ce qu'on peut mettre sur quelqu'un même. Hein. Je retiens mon pardon, je suis en colère contre un tel. Ça, c'est des jougs qu'on met sur les gens. Ce n'est pas juste le patron qui exploite. Partage ton pain avec celui qui a faim et ramène à la maison les pauvres sans abri. Si tu vois un homme, nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de celui qui est ta propre chair. Là, c'est une autre attitude, c'est la compassion, c'est l'amour, la bienveillance, qui est le cœur de Dieu. Vous voyez, les jougs qu'on retient sur les gens et la compassion qu'on doit exercer. Ça, c'est le véritable jeûne auquel Dieu prend plaisir. Donc si vous jeûnez et que vous faites le contraire de ça, vous pensez bien que Dieu ne va pas prendre plaisir à votre jeûne. Il ne faut juste pas jeûner dans ce cas-là. Si vous jeûnez et puis que vous vous énervez encore plus que d'habitude, et que vous êtes encore plus, vous en voulez à la terre entière, arrêtez de jeûner alors, parce que ça va être compliqué. Parce que du coup, Dieu ne prend pas plaisir à ce jeûne-là. Mais plus que ça, j'ai remarqué que souvent quand on jeûne, on s'affaiblit physiquement, on arrête de manger, de faire une chose légitime, hein, dont on a le droit, arrêter de manger. On donne plus de place à l'Esprit de Dieu, pour qu'il puisse travailler en nous. Et j'ai remarqué que dans ces moments-là, notre chair, notre vieille nature réagit dans ces moments. Elle va se manifester. C'est-à-dire que si nous réagissons bien face à cette réaction de la chair, si nous ne laissons pas la chair prendre le dessus, si nous discernons que c'est vraiment notre chair qui réagit à ce moment-là, et avec l'aide du Saint-Esprit, bien sûr, que nous discernions, alors nous détachons les jougs. nous dénouons les faux jougs, les fausses oppressions. Nous libérons le pouvoir de la chair qui veut diriger et contrôler nos vies. Nous donnons moins d'importance à la chair parce que lorsqu'elle se manifeste dans ces moments-là, qu'est-ce que nous faisons ? Nous la crucifions. Et nous refusons d'entrer dans ce qu'elle nous propose. Et le jeûne va exacerber cela. Il faut être conscient. Si vous jeûnez, vous placez sous le regard de Dieu, ça va exacerber ces choses-là en vous, que vous le vouliez ou pas. Parce que la chair ne supporte pas ce moment de jeûne et prière. Et lorsque nous maîtrisons nos appétits physiques, nous maîtrisons aussi nos appétits spirituels, nos appétits de la chair plutôt. Celui qui sait discipliner son corps par le jeûne, alors il est capable de se discipliner dans d'autres domaines de sa vie. Tu peux mettre la slide. Nous avons vraiment besoin du jeûne pour maîtriser notre corps et les pulsions qui vont avec. L'apôtre Paul va dire « Je traite durement mon corps, je le maîtrise sévèrement, de peur qu'après avoir proclamé l'évangile aux autres, je me trouve moi-même disqualifié. » Combien de ministères sont tombés parce qu'il y avait un temps d'indiscipline, de relâchement, des temps de laisser-aller où des pièges sont tombés dans des pièges, les pièges de la chair, où Satan a profité d'exposer leurs péchés et des péchés grossiers qui sont venus à la lumière et dans la vie de certaines de ces personnes, parce qu'ils ont manqué de discipline, parce que le jeûne nous aide à nous discipliner et à discerner dans notre chair et à la maîtriser, à discerner la manifestation de notre chair. Vous savez, on aura toujours à traiter avec notre chair, toute notre vie jusqu'à notre mort. Elle sera toujours là. Nous ne pouvons pas la chasser. Nous ne pouvons pas lui dire de partir. Elle ne prend pas de vacances. Elle n'est jamais en vacances, notre chair. La seule chose que nous pouvons faire avec, c'est la crucifier. C'est la seule chose. La chair doit passer par la mort en Christ. Et elle doit demeurer dans cette mort en Christ. Nous devons mourir en Christ et rester dans cette mort afin que je vive en nouveauté de vie. Et si nous sommes d'accord de mourir, d'où pour moi l'importance du jeûne qui doit être volontaire. Même si on le fait en église, ça doit rester volontaire. Ça ne doit pas être une obligation. C'est à ça qu'on vous invite. Nous devons être d'accord de mourir. Dieu attend notre oui pour que Jésus puisse dire lui son oui envers nous et dire oui, je te ressuscite maintenant. Si je dis oui à Jésus, alors lui peut me dire oui. Si je dis oui pour mourir, alors lui peut dire oui, ressuscite. Ça marche comme ça. C'est le cœur de l'évangile. Nous ne pouvons pas vivre la vie de résurrection sans au préalable avoir été crucifié avec Christ. C'est le cœur et le centre de l'évangile. Il y a beaucoup de clés dans Ésaïe 58 que je n'ai pas le temps de voir ce matin. Je pense qu'on a déjà vu, on a bien dégrossi. Mais qui sont fondamentales dans ce combat contre la chair afin que notre cœur et notre vie soient transformés de gloire en gloire à l'image de son Fils. Amen. C'est notre désir. Et j'effleure peut-être encore, peut-être juste quelque chose que c'est bien que je vous laisse. Jésus a dit, il y a certains démons qui ne sortent que par le jeûne et la prière. Si vous entrez dans le jeûne, vous allez entrer dans la contestation avec l'ennemi et l'ennemi va se lever lorsque vous jeûnerez. Et c'est ce qui s'est passé avec Jésus. À partir du moment où il a jeûné, à un moment donné, l'ennemi est venu. Satan est venu. Et il a commencé à lui faire beaucoup de propositions à Jésus. Beaucoup de propositions qui avaient l'air bien comme ça, même avec la parole de Dieu. Hein ? Il y a des choses qui vont se lever en vous quand vous allez jeûner. Vous penserez que c'est de Dieu ou des paroles comme ça, mais ce sera juste l'ennemi qui vient et qui vous propose des choses. Et dans cette contestation, ces propositions, même des séductions, Jésus, il a pu résister seulement parce qu'il est resté proche de son Père et qu'il a lutté avec la parole de Dieu. Il n'y a que par la parole de Dieu que vous pourrez lutter contre ces propositions, contre cette contestation qui s'élèvera quand vous jeûnerez. Et le diable fuira loin de vous. Et vous vivrez des victoires extraordinaires. Vous serez élevés comme Jésus l'a été. Et vous verrez la puissance de Dieu dans votre vie. C'est le chemin que Dieu nous propose pour grandir avec lui. Je termine. On a besoin de se priver de nourriture dans les temps dans lesquels on vit. Pour savoir comment nous devons réagir, pour crucifier notre chair, pour faire un travail sur nous. Nous avons besoin, l'Église a besoin de jeûner et de prier. Nous vivons des temps de grands bouleversements, des temps de grands changements. Nous ne pouvons plus fonctionner juste avec ce que nous avions avant. Nous avons besoin d'aller plus loin avec le Seigneur. Et le jeûne et la prière est le moyen par excellence pour entrer dans ces temps où Dieu va nous transformer afin de pouvoir affronter les temps dans lesquels nous allons aller. Des temps où tout est bouleversé, où beaucoup de choses vont se passer, où il y a une vague d'occultisme qui arrive. Comment l'Église pourra-t-elle affronter cette vague qui vient, cette vague de dérèglement, de confusion, d'esprits qui sont lâchés partout? Comment l'Église sera forte pour affronter cela si elle ne jeûne et si elle ne prie pas? Vraiment, c'est un appel du Seigneur à l'Église avant son retour qui est proche. Ce retour est proche. Nous n'avons pas à craindre ce qui arrive, mais nous avons à nous y préparer. Amen. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité, qui est une épée à double tranchant, qui vient séparer tout ce qui est toi et tout ce qui n'est pas de toi. Seigneur, que tu puisses encore bénir ton Église. Je te prie de bénir les uns les autres dans ce processus en Église qu'on fait de jeûne et prière. Viens, Seigneur, nous qualifier, nous mettre à part avec toi. Viens en fonction de ce que nous pouvons te donner. Viens préparer ton Église, Seigneur, dans ces temps qui sont les derniers. Que nous puissions nous mettre ensemble pour prier, individuellement ou en groupe, que ton Église se lève. Parce que l'Église n'est pas prête pour les temps dans lesquels on va et on veut s'y préparer. Seigneur, viens toucher nos cœurs, viens toucher nos vies. Gloire te soit rendue. Amen.